et moi, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, et bien voici l'heure des coups au cœur avec Littéra 05. Aujourd'hui, un livre tout récent qui a été publié en 2018 aux éditions de Minuit, qui s'appelle « Ça raconte Sarah » et l'auteur, une jeune femme, Pauline Delabroix-Allard. Pauline Delabroix-Allard, qui est donc une jeune femme professeure documentaliste dans un lycée de banlieue, et la mère célibataire d'une petite fille. Son père est écrivain, Jean Delabroix, mais à qui elle n'a jamais dit qu'elle écrivait. Au début, elle écrit et personne ne devait lire « Ça raconte Sarah ». Elle avait rangé son manuscrit dans une grande enveloppe pour l'oublier. Et puis, à 28 ans, elle nous dit « J'allais avoir 30 ans, nouvelle étape dans ma vie, j'ai paniqué ». C'était le moment de faire quelque chose de fort. Elle a donc ressorti son manuscrit et l'a envoyé par la poste et les éditions de Minuit ont répondu. Ça raconte Sarah, sa beauté inédite, son nez abrupt d'oiseau rare, ses yeux d'une couleur inouïe, rocailleuse, verte, mais non, pas verte, ses yeux absinthes, malachites, vert-gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante, victorieuse. Alors la narratrice, on ne connaît pas son nom, est donc professeure documentaliste dans un lycée. Ça vous rappelle quelque chose, bien sûr. Une vie bien réglée entre les heures de travail et le temps qu'elle passe avec sa petite fille. Elle est mère célibataire, elle mène une vie rangée, la routine quoi. Mais le jour où Sarah est entrée dans sa vie, va débuter une passion folle, d'une intensité qui va tout renverser sur son passage. Elle rencontre Sarah à un dîner chez des amis, elle se revoit, et très vite, un jour, en sortant d'une pièce de théâtre, elle plonge ses yeux dans les miens. Elle dit « Je crois que je suis amoureuse de toi ». Elle esquisse un geste très léger, un pas en arrière, comme un mouvement de danse. Elle sourit presque lorsque je balbutie « Ah bon, mais je ne savais pas ». Elle dit qu'elle va fumer une deuxième cigarette pour fêter ça, son audace, son courage. L'allumette craque dans la nuit. L'odeur du soufre devient à jamais et pour toujours l'odeur de l'aveu qui soulage, l'odeur de la réalité inexprimable enfin exprimée. L'odeur de la vérité dénudée, mise à terre, déposée devant moi comme un cadeau. Et à partir de là, le livre est tout entier, je dirais, consacré à la passion, à la découverte de l'autre, les corps brûlants. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le souffre. Ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d'une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole S. Il y a deux ou trois pages très belles sur « Après leur première nuit d'amour ». Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le livre est fait de très courts chapitres qui sont numérotés. Ça peut être simplement une phrase ou un paragraphe, surtout dans la première partie. Dans la seconde, non, on a des chapitres beaucoup plus longs. Hein, et pour cause, je ne vous dis pas d'ailleurs pourquoi. Vous le découvrirez vous-même. Alors, après leur première nuit d'amour, page 34, elle me laisse à un coin de rue le lendemain sur le chemin du lycée. Elle me fait un signe du menton et s'élance sur le trottoir. Elle me laisse, sans savoir que j'ai les mains qui tremblent, qui ne s'arrêtent pas de trembler de toute la journée, incrédules de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont touché. Elle me laisse sans savoir qu'à la fin de la matinée, je prends rendez-vous chez le médecin, bien incapable de travailler plus longtemps, qu'il me met en arrêt maladie pendant 2 jours, que je me précipite sous ma couette dormir dans son odeur en plein après-midi. Le lendemain, je déplie l'arrêt maladie pour l'envoyer. Dessus, le médecin a écrit « Altération de l'état général ». Chapitre 22. L'amour avec une femme, une tempête. Chapitre 23. Les jours qui suivent, je ne pense qu'à ce qui s'est passé. Les images vont et viennent derrière mes paupières dès que je ferme les yeux. Je ne pensais pas toucher un jour le corps d'une femme, aimer ça à la folie au point d'y penser sans arrêt, nuit et jour. Elle ne quitte pas mon esprit. Elle me hante, nue, sublime. Un fantôme qui fait gonfler mes veines, larmoyer mon sexe. C'est une révélation, une lumière, une épiphanie. Chapitre 24. Après la première nuit, être loin d'elle devient une aberration. Chapitre 25. Elle m'écrit beaucoup. Dans les vies séparées que l'on mène, il y a les mots qui fusent toute la journée et tard dans la nuit. Elle m'écrit, je réponds, elle m'écrit encore. Elle me pose des questions. Est-ce que moi aussi j'ai aimé ça? Est-ce que moi aussi ça m'obsède depuis? Mes réponses, oui, oui, oui. La vie extérieure n'existe plus, la vie matérielle non plus. Il n'y a plus qu'elle. Elle, ses yeux de serpent, ses seins, son cul. Elle contrarie son emploi du temps dès qu'elle le peut pour me voir. C'est toujours le même scénario. Elle vient chez moi, dans mon appartement. Elle chuchote quand je lui demande de parler moins fort parce que mon enfant dort à côté. Elle laisse durer toujours un peu le moment délicieux du dîner. Elle raconte des histoires. Elle boit son verre de vin en me regardant droit dans les yeux. Elle fume une cigarette à la fenêtre et puis elle n'y tient plus. Elle s'approche de moi. Elle me respire. Elle m'aspire. Ça raconte ça. Le souffle, le soufre, la tempête. Elle ne sait pas que son odeur me distord le ventre. Elle ignore que plus rien ne m'intéresse, plus rien ni personne. Elle mange un pain au chocolat chaque matin avec un café au lait. Je me mets à manger un pain au chocolat chaque matin avec un café au lait. Elle met du mascara tous les jours. Je me mets à mettre du mascara tous les jours. Elle emploie des mots vulgaires inconnus de moi. Je les intègre à mon vocabulaire. Elle colle ses seins contre les miens dès que nous sommes deux et elle me sert à étouffer comme si elle souhaitait que nous ne fassions plus qu'un seul corps. Elle part en tournée avec son quatuor, elle s'en va à Bruxelles, à Budapest, elle m'écrit tout le temps. Elle me demande si c'est dur aussi pour moi toutes ces séparations. Elle me supplie de l'attendre, elle me promet de revenir le plus vite possible. Dans cette tempête, elle est capitaine de navire, je deviens femme de marin. Sarah est donc musicienne, violoniste, membre d'un quatuor à cordes qui est attendu pour des concerts d'une ville à l'autre. Sarah quitte donc souvent Paris et ce n'est pas facile de s'aimer entre 2 avions, 2 trains. Avec son quatuor, elle part en tournée dans toute l'Europe. Elle m'écrit de Hongrie, de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de Suisse. Entre chaque tournée, elle a quelques jours, parfois uniquement quelques heures, pour passer chez elle, défaire sa valise, la refaire, changer de partition, vérifier que tout va bien dans son appartement. Elle bâcle les bouclages de valise, préfère venir me voir. Elle dit que ce n'est pas bien grave si elle ne rentre pas chez elle entre 2 avions, qu'elle achètera dans la prochaine ville des habits neufs pour avoir des vêtements propres. Elle arrive à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle retire sa veste de cuir bleu nuit, elle se déshabille, elle se jette dans mon lit tout de suite, elle me dévore. Le lendemain, elle boit un café au lait, elle grignote un pain au chocolat, elle vérifie l'heure de son train, de son avion, elle s'habille, elle enfile sa veste de cuir. Au moment où elle s'en va, sa boîte de violon sur le dos, sa valise à la main, elle m'enlace, elle plonge son nez dans mon cou. À chaque fois, elle se met à pleurer. D'abord tout doucement, puis de plus en plus fort. Elle s'agrippe à moi, elle renifle, elle sanglote. Elle a du mascara plein les joues, de la morve sur le visage. Elle dit qu'elle n'en veut plus de cette vie-là, que ça n'a pas de sens, qu'elle voudrait rester là, aller au cinéma, dîner avec moi le soir. faire des choses normales de la vie normale. Elle insiste sur le mot normal. Elle a la voix grave, d'un coup la voix du chagrin. Elle me fait une caresse sur la joue, elle m'embrasse une dernière fois. Elle laisse du mascara sur le col de mes chemisiers, une odeur de cuir bleu nuit sur mes paumes. Et puis elle s'en va. Elle revient. C'est la fête à nouveau, les nuits à ne pas dormir, à parler, à faire l'amour et à recommencer jusqu'à ce que les oiseaux chantent. Les dîners avec du vin et des cigarettes, trop de vin et trop de cigarettes. Les retrouvailles avec les baisers retardés le plus longtemps possible, repoussés jusqu'au moment où elle n'y tient plus, où elle mange ma bouche comme on croque une cerise, violemment, méchamment. Elle m'aime, c'est écrit à l'encre vénitienne, noir sur blanc. Une passion donc telle que la raconte la narratrice. Elles aiment toutes les deux les mêmes choses, elles vont au cinéma, au théâtre, au concert. Elles aiment se retrouver dans un bar. Elles se séparent pour mieux vivre le bonheur des retrouvailles. Elles cachent parfois leur amour, par exemple devant l'école où elles vont chercher la petite fille, ou devant le lycée où travaille la narratrice. Leur amour, c'est comme une ivresse qu'elles ne contrôlent plus. Elles sont vivantes. Très souvent, la narratrice dit de Sarah, elle est vivante. Et c'est très important. Alors, quel mot pour traduire cette passion? Quelle écriture? Vous avez remarqué des phrases courtes et puis qui s'allongent parfois pour trouver le mot juste. La plupart des phrases commencent par « elle ». Elle, c'est Sarah, bien sûr. L'intensité entre nous est trop forte, des orages éclatent. Elle devient mauvaise. Elle crie à en faire trembler les murs. Elle tombe à genoux, pleine de sanglots déchirants. Elle se relève, titube, vient se nicher entre mes bras, demande pardon. Un mot de trop et elle se met à crier à nouveau, à dire « c'est plus possible, c'est plus possible !» à claquer les portes. Elle se laisse rattraper in extremis. Elle ne combat pas quand je la déshabille et que je la force à entrer dans la baignoire où je la lave méticuleusement sous l'œil ahuri du chat de la maison. Elle pleure en silence, tandis que je fais « chut » entre mes dents. Chut, comme quand on veut apaiser un enfant qui fait ses dents, un grand gaillard plein de fièvre, un vieux qui s'apprête à mourir. Allez, chut, c'est fini, là, chut. Et bien sûr, il n'y a plus que Sarah qui compte, tout le reste est mis au second plan par la narratrice. Tout le reste n'a aucune importance. Et puis il y a des passages qui cassent un petit peu ce rythme. Des passages explicatifs, par exemple, elle donne des définitions de mots empruntés au dictionnaire, qui donc casse complètement le rythme de la passion. Par exemple, elle explique le mot passion, son étymologie du latin patior, éprouver, endurer, souffrir, substantif féminin avec une idée de durée de la souffrance ou de succession de souffrances, action de souffrir, etc., etc. Ou bien en quelques lignes, elle nous présente un film, une pièce de théâtre qu'elles ont vue. Le film de Truffaut, par exemple, Domicile conjugal. Elle écrit une page là-dessus, ou le songe d'une nuit d'été. Alors ça permet au lecteur de faire une pause, je dirais, et de reprendre un petit peu son souffle. Voilà, le roman de Pauline Delabroix-Allard est constitué de deux mouvements. Une première partie dont je viens de vous parler, dont je vous ai lu quelques extraits, faite de chapitres courts, donc qui sont tous faits de mots qui décrivent les manifestations de la passion. Depuis le moment où le monde de la narratrice a basculé véritablement en une seconde et où chaque instant de sa vie a été envahi. Et tout tourne autour de cette phrase répétée de nombreuses fois, « elle est vivante ». Trois mots essentiels. Parce que le deuxième mouvement, c'est comme une chute, parce qu'on sait très bien que de la passion naît souvent la tragédie. La chanson le dit bien, les histoires d'amour finissent mal en général. Et ça, bien sûr, je vous le laisse découvrir. Voilà, un très beau livre sur la passion amoureuse qui s'appelle « Ça raconte Sarah » de Pauline Delabroix-Allard, paru aux éditions de Minuit en 2018. Merci pour votre écoute. À bientôt. Oh, I've done so much wrong.